à l'aune d'une actualité qui est hautement brûlante. On est vraiment entre deux canicules. On a bien choisi la date pour Edifice. Les villes et les métiers en fait, de la chaîne de l'immobilier aujourd'hui sont bien perturbés et sont au cœur de tous ces défis du XXIe siècle, que ce soit à la fois des défis environnementaux, sociaux, sanitaires et économiques. Et c'est face à tous ces changements, ces accélérations aussi de phénomènes météorologiques. On a à la fois ces vagues de chaleur qui sont plus fréquentes, mais aussi plus précoces. On a des inondations l'hiver, on a des températures aussi qui varient, parce qu'on peut avoir froid aussi l'hiver. Et puis des tempêtes qui sont surtout cycloniques, de la sécheresse, des effondrements de la biodiversité. Enfin voilà, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc l'adaptation aujourd'hui, ce n'est pas une option. L'adaptation, c'est vraiment une nécessité, voire une urgence. Donc l'objet de l'atelier, ça va être de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur ces orientations, sur les expérimentations en matière d'adaptation et puis l'articulation entre sobriété et adaptation. Donc on sortira un peu de cette addiction de la technique ou de la technologie pour plutôt explorer des leviers en matière d'organisation, de leviers également politiques, de transformation urbaine plus que nécessaire. Le format, donc... On va présenter un petit peu toutes ces thématiques-là et on va vous laisser, bien sûr, intervenir à la fin, à échanger, parce qu'on n'a pas la science infuse, loin de là. Donc, c'est plutôt de se dire on est vraiment dans l'échange, d'où le terme atelier. Et donc, Victor vous dressera un peu ce portrait du modèle actuel de la production immobilière pour qu'on puisse partir tous sur la même base. Pour certains, ça peut être des redites, pour d'autres, ça va rafraîchir un petit peu sur ces éléments, et notamment les chiffres. Et on finira ensuite par ouvrir ce débat aux nouveaux imaginaires, aux comportements, et au rôle aussi de tous les métiers, de tout à chacun, au sein de ces filières, et de la mobilisation de toutes et tous, puisque c'est vraiment un sujet d'intérêt général. Donc pour ma part, je m'appelle Amélie Decaux, je suis facilitatrice urbaine et membre du SINA depuis un certain nombre d'années. Ravie également d'être dans ce comité d'organisation depuis la première édition d'Edifice. Je travaille sur la régénération de projets urbains en milieu urbain ou rural pour de la maîtrise d'ouvrages privés ou publics. Et donc aujourd'hui, nous avons invité... Victor Pianet-Vautier, qui va vous parler de ce qu'il est chef de projet au sein de l'OID, donc l'Observatoire de l'immobilier durable. Et il traite justement de tous ces enjeux de sobriété énergétique et d'adaptation au changement climatique. Donc on est pile vraiment dans ce sujet. Et notamment, il a un rôle important de secrétaire au sein de l'Alliance mondiale pour le bâtiment de la construction. Donc ça, il va vous l'expliquer. Donc c'est ça qui va être effectivement... voilà. Et donc, ravi en tout cas d'accueillir Victor. Et puis, voilà, comme je travaille aussi sur les sujets d'évolution des modes de vie et de la société, on est vraiment sur un sujet vraiment focus d'actualité. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous tous et toutes d'être venus pour cette petite conférence, discussion qu'on va avoir avec Amélie. Je vais prendre quand même deux petites minutes pour présenter l'Observatoire de l'immobilier durable. Je ne sais pas trop si vous nous connaissez ici. On est une association, l'OMINOPSA1, basée à Paris. Et on travaille sur la France, mais aussi sur l'échelle européenne. On travaille sur tous les aspects de la transition du secteur immobilier. Et on a changé notre façon de faire. Mais bon, bref, on essaie de faire émerger un immobilier sobre, résilient, respectueux du vivant. Donc on travaille sur toutes les thématiques qui ont lien avec la chaîne de valeur de près ou de loin de l'immobilier. On travaille sur le carbone, l'énergie, la biodiversité, etc. Et on décline tout en différentes dynamiques, transition réglementaire. Voilà. J'imagine que vous ne nous connaissez pas trop, donc c'est peut-être le moment pour aussi vous montrer qu'on a énormément de membres. Certains sont parmi vous sont membres de l'OID. Je l'ai vu, vous pouvez retrouver peut-être vos logos. Et donc notre but, c'est vraiment produire du savoir, co-construire du savoir pour nos membres, avec nos membres, mais aussi on fait des études de nous-mêmes de façon totalement indépendante. Et puis on produit des outils, notamment des outils d'analyse de risques climatiques qui sont accessibles en libre accès. La méthodologie complètement libre, notamment notre outil BATADAPT que vous avez peut-être déjà utilisé, c'est un outil d'analyse de risques climatiques. On a la même chose pour la biodiversité et aussi un outil spécifique pour les risques liés au RGA dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'était juste pour faire notre pub. Et donc moi, je suis effectivement en charge de la thématique sobriété. Je travaille aussi sur la thématique adaptation. Donc l'OID, c'est ma casquette jour, on va dire. Et la nuit, comme Batman, je travaille aussi. Enfin, je participe, je suis bénévole. Enfin bref, à l'Alliance mondiale pour le bâtiment et la construction, où j'encadre le groupe de travail sur l'adaptation. Et je suis aussi élu à son comité de pilotage. Donc l'Alliance mondiale pour le bâtiment et la construction, c'est un forum, une organisation dirigée par ses membres, qui est hébergée par l'UNEP et qui nous offre aussi un secrétariat et donc du soutien pour développer nos projets. Voilà, donc ça c'était juste sur moi. Mais aujourd'hui, on veut parler sobriété et adaptation. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire.
Et on est dans une logique de continuité. Donc pour ceux qui étaient déjà présents en 2022, c'était la juin 2022, la date de la première biennale qui avait lieu également à la Baule, ici même, sur une thématique de l'immobilier de demain, avec des personnalités inspirantes qu'on avait invitées à cette occasion, dont le sociologue Jean Viard, mais on avait aussi l'architecte visionnaire Jacques Rougery qui avait clôturé cette journée. Si je vous parle de cette première édition, c'est qu'a été évoqué d'ailleurs ce matin Philippe Madec, qui était un de nos intervenants. Depuis donc plus de 30 ans d'exercice de la profession d'architecture de la sobriété, il a créé en 2019 un mouvement qui s'appelle Frugalité heureuse et créative, qu'il n'a pas créé tout seul, hein, c'est à son initiative, mais accompagné aussi d'autres architectes comme Alain Bornarel et Dominique Gosin-Muller. Et c'est ce mouvement qui a inspiré des villes comme Bordeaux ou comme Rennes, avec notamment la FPI à Bordeaux qui a créé cette démarche de frugalité. Le message qu'il nous avait laissé, en deux mots, ça tient sur pouvoir faire mieux avec moins, que tout le monde connaît, parce qu'il a bien rabâché effectivement ces enjeux et ces solutions de changement pour faire donc des projets qui deviennent désirables pour tous. La deuxième biennale de juin 2024 abordait l'immobilier en mouvement, et on avait parmi les ateliers et les thématiques de l'après-midi le biomimétisme avec le Sébios qui était venu, et on avait aussi un atelier sur le low-tech avec Timothy Fustek de Carlotech et puis Jean-Marc Benguigui de la centrale de l'école centrale de Nantes en enseignement en transition écologique. Donc si je parle de ça, c'est qu'il y a une continuité, il y a un fil conducteur en fait dans les édifices qui se suivent là depuis 3 ans. Et donc, Victor, je posais la question sur... On parle donc de frugalité, de sobriété, d'adaptation. Qu'en est-il exactement de ces notions ?
Oui, alors c'est très intéressant parce que... j'ai vu Philippe il y a 3 semaines aussi au Salon Passibat. Enfin bref. Donc, c'est des débats un peu qu'on a régulièrement sur que veulent dire les mots, où est-ce qu'on va, quelles sont les nuances. Et donc, moi, je vais un peu revenir sur la notion de sobriété en tant que telle. Et comme nous, on la comprend en tout cas à l'OID dans nos travaux, on se base beaucoup, enfin essentiellement que, sur des référentiels qui sont normés, donc les référentiels notamment du GIEC. Et donc le GIEC, dans son dernier rapport, définit la sobriété. Donc je ne vais peut-être pas le paraphraser, mais vous pouvez relire là. C'est vraiment une combinaison de ce qu'il faut bien comprendre dans la notion de sobriété, comment elle est comprise au sens du GIEC, c'est que c'est une combinaison de politique publique et d'engagement des citoyens pour, à la fin, assurer le bien-être commun de tous. Et donc, en ça, ça rejoint énormément la définition de la frugalité que Philippe Madec peut développer. Et en fait, le problème, il vient beaucoup du fait qu'en français, le mot sobre, la sobriété, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est une notion qui est déjà très développée et on y associe beaucoup d'affects sur se restreindre. C'est pas fun quand on fait la fête sobre, etc. Alors qu'un repas frugal, ça peut être aussi un repas intéressant. On a mangé, on va faire la fête. Enfin, frugalité, c'est plus heureux. Alors qu'en réalité, ce qu'on recherche, c'est exactement la même chose, quoi. L'enjeu, c'est de sortir d'un réflexe d'excès, c'est de questionner les besoins, questionner le confort. Et donc finalement, c'est un peu la même chose. Et là où c'est intéressant que le GIEC se saisisse de cette problématique très récemment, c'est qu'en anglais, c'était une notion qui n'existait pas vraiment. Et en anglais, on dit « sufficiency ». Et donc, il y a tout un imaginaire derrière qui est très différent, où on cherche la suffisance, l'autonomie, le juste milieu, quoi. Donc finalement, pour moi, les deux notions, elles sont vraiment très proches, et c'est juste un... On essaie de faire avec le français qui a des comment on appelle ça, on a dit quoi, des connotations sur des mots qu'on utilise déjà, alors qu'en réalité c'est vraiment juste questionner nos besoins. Et donc dans un souci, dans un monde limité dont on a pu parler ce matin, ça va vraiment venir questionner notre consommation. Et dans un souci aussi d'adaptation au changement climatique, on voit tout ce qui se passe, c'est aussi venir questionner nos besoins en termes d'adaptation, etc. Et donc de se protéger des aléas climatiques. Et donc finalement, la sobriété et l'adaptation, il y a beaucoup de thèmes qui sont en commun quand on réfléchit à cette notion de besoin. Voilà.
Justement, là, on va aborder maintenant, pour entrer dans le détail, la vision de la sobriété sur la base du modèle immobilier actuel, voir comment ça fonctionne avec les éléments et les chiffres que tu vas nous montrer.
Oui. Alors, je vais faire un rappel. On en a pas mal d'intervenants ce matin qui ont aussi rappelé quelques chiffres et qui ont démontré ça aussi, mais je vais refaire un petit trou très rapide. En fait, pour parler de sobriété et vraiment comprendre l'enjeu qu'on veut développer avec cette table ronde ici, enfin ce petit atelier de questionner les besoins et venir transformer les usages, c'est de comprendre que nos usages ne sont pas forcément adaptés à nos besoins, et ce depuis très longtemps avec notre modèle, c'est-à-dire que le modèle immobilier, il consomme énormément, il n'est pas sobre mais intrinsèquement, c'est-à-dire que le secteur du bâtiment est responsable de 45% de la consommation finale d'énergie en France, et est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre, en tout cas juste la partie exploitation. Si on parle empreinte carbone, le secteur du bâtiment, de l'immobilier, c'est 25% de notre empreinte carbone en France, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc on a un levier énorme, nous tous autour de la table pour ça. Et surtout, ça vient énormément du chauffage. Quand on regarde la consommation principale, bon après avec le réchauffement climatique, ça va changer, on est bien d'accord. Mais jusqu'à maintenant, historiquement, c'est surtout le chauffage qui est le principal poste de consommation dans les surfaces chauffées. Et donc on pourrait se dire, oui mais le chauffage, là en ce moment on a plein de réglementations, RE 2020, etc. On travaille à être plus efficace. Et donc je vous dirais, oui c'est absolument vrai, c'est absolument vrai. On a diminué par 60% la quantité d'énergie consommée pour chauffer, mais dans le même temps, on a augmenté de 55% les surfaces chauffées. Donc, ce point-là, j'essaie juste de le faire pour montrer que la technique, tant en termes d'énergie qu'en termes d'adaptation, on le verra juste après, s'appuyer uniquement sur la technique, ce n'est pas suffisant pour atteindre nos objectifs. Il faut aussi vraiment questionner pourquoi on se chauffe, à quelle température on chauffe, etc. Et il faut questionner nos besoins. C'est vraiment ça le cœur du souci, du problème. J'insiste aussi, je le remarque quand même pour être honnête intellectuellement, on a diminué énormément nos consommations, nos émissions de gaz à effet de serre, malgré le fait que notre consommation d'énergie est relativement stable. Pourquoi ? Parce qu'on décarbone l'énergie en France. Ce qui n'est pas du tout négligeable et qu'il faut quand même bien en prendre en compte dans nos conversations, essayer d'avoir quelque chose d'honnête. Il n'empêche qu'on reste, même si on émet moins, on reste très fragile, très vulnérable de par notre dépendance à l'énergie. On peut pas, la sobriété, c'est un enjeu d'adaptation puisqu'on élimine une vulnérabilité à une grille énergétique très, très surchargée. Bon, quand on parle de sobriété, on ne parle pas uniquement d'énergie. Hein, ce n'est pas juste on va éteindre la lumière, ce n'est pas Versailles ici. C'est aussi ce dont on a parlé depuis ce matin, la consommation de foncier. L'artificialisation en France, elle n'a pas du tout cessé depuis 1982 et elle augmente beaucoup plus. L'artificialisation est plus importante que tous les types de croissance qu'on peut avoir. Il y a plein de raisons. Ce n'est pas juste on consomme pour consommer. Routier. Bah, ça, par exemple, c'est le chiffre que je mets en bas. 46 millions de mètres carrés de surface de plancher, ça nécessite 200 millions d'hectares artificialisés. Parce qu'il faut construire des infrastructures, parce qu'on a besoin de routes, parce que. Donc, ce n'est pas du tout une consommation linéaire. Et donc, il y a plein de raisons, mais on est en droit de se questionner quand même de comment ça se fait qu'on consomme autant de foncier et qu'est-ce qu'on fait de tout ce foncier. Eh ben, la réponse est quand même particulière, c'est que notre foncier qu'on construit, il est quand même majoritairement vide, notamment dans le tertiaire. Si on regarde sur le Grand Paris, au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de bureaux, mais il y a aussi de plus en plus de vacances. Donc, on consomme beaucoup de foncier, on consomme beaucoup d'énergie, on consomme beaucoup de ressources. 70% des déchets qu'on produit dans le pays, ça vient de la construction. Donc là, on est quand même en droit de se demander comment ça se fait qu'on construit des bâtiments qui sont vides. Je ne vais pas vous expliquer, vous connaissez bien mieux que moi ces dynamiques, mais c'est quand même une question qui est frappante, un constat. Je ne vais pas non plus prétendre avoir toutes les réponses, mais il y a quand même quelques éléments où vous êtes tous et toutes au courant que la démocratisation du télétravail a beaucoup influé notre système de travail, ce qui a amené à un tri et une polarisation du marché, puisque du coup, beaucoup d'entreprises ont pu réduire leur taille, et du coup, les surfaces qui étaient avant attirantes ne le sont plus, on cherche des emplacements premium, etc. Le flex-office, nanana. Et donc, on constate des choses aussi où finalement, on a construit à des endroits qui ne sont plus désirables maintenant. Donc, on a toute une manne. Là, cette carte à droite est peut-être un peu illisible aussi, mais en rouge et en bleu, c'est la différence entre où il y a des bâtiments disponibles et où est-ce qu'on veut travailler. Donc, on voit qu'on veut travailler là où il n'y a pas beaucoup de bâtiments et qu'au contraire, on a beaucoup de bâtiments là où on ne veut plus travailler. Sur Paris, bien sûr. Et donc, on a tout cet enjeu-là où on a des tas de bâtiments qui, entre guillemets, ne servent à rien. Et ça, c'est uniquement en termes de travail. Mais ces bâtiments-là de bureaux, ces bâtiments tertiaires, ils ne sont pas occupés la nuit, ils ne sont pas occupés en week-end. Donc, on a effectivement tous ces matériaux, toute cette énergie qui est consommée, qui est nécessaire. Et le problème de tout ça, c'est que notre parc, il est très rigide. On a vraiment du mal à le transformer. Je ne vais pas, encore une fois, vous apprendre comment on fait des transformations de tertiaire en bureau, etc. Mais on a tous ces mètres carrés. Ça coûte de l'argent. Ils sont immobilisés. La loi n'est pas forcément faite en faveur de transformer des bureaux en logements ou vice-versa. Donc, on a énormément, énormément de fonciers, de surfaces qui sont immobilisés et qui ne sont pas utiles. Et donc, la question qu'on va essayer de se poser, c'est est-ce qu'on peut travailler à l'intérieur de ce paradoxe-là pour faire émerger des solutions à la fois de sobriété, des sobriétés d'usage, des sobriétés dans le foncière, etc., qui peuvent être aussi des leviers d'adaptation au changement climatique. Est-ce qu'il me reste un slide ? Oui. Tout ça pour dire que, bien évidemment, ce n'est pas qu'un enjeu de « il faut faire bien », ça permet aussi d'en répondre à vos enjeux réglementaires. Le décret tertiaire qui oblige de réduire sa consommation d'énergie, et puis bien sûr la loi ZAN, etc. Un bâtiment qui est vide, un bâtiment d'école, un bâtiment de bureau qui est vide la nuit, qui est vide les week-ends, il consomme quand même. Donc, à un moment donné, si on veut réussir à réduire nos consommations, il faut aussi travailler ça. Qu'est-ce qu'on fait quand il est vide? Comment on peut intensifier leur usage pour limiter la construction, pour limiter tout ça? Et donc là, on va pouvoir travailler ensemble le lien entre sobriété d'usage et stratégie d'adaptation. Voilà. Ah non, pardon, un tout dernier truc à dire. Je veux dire, ce dont on va parler, ce n'est pas du tout des choses qui sont idéalistes. C'est qu'on a vraiment un système qui est basé sur du gaspillage, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu une petite crise énergétique l'hiver 2022-2023. On était un peu inquiet de savoir si on allait pouvoir passer l'hiver. Et en fait, juste avec des efforts d'anti-gaspillage, on a économisé 12% de notre énergie nationale. C'est-à-dire qu'on a vraiment un système qui est construit sur l'excès. Donc en questionnant nos besoins, en questionnant nos excès, on va sans doute pouvoir réussir à trouver des solutions sans sortir énormément de billets verts, même si les nôtres ne sont pas trop verts. Voilà, donc là maintenant je pense que c'est fini. D'autant plus que, je ne vais pas rappeler ça, mais la sobriété c'est un levier essentiel pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, sobriété, efficacité, donc comportement, technique, et puis ensuite verdissement de notre énergie. Donc quand on parle d'adaptation, il faut aussi penser l'atténuation et l'adaptation de concert, notamment avec la sobriété. Voilà.
Alors, pour enchaîner là, sur ce qu'on a vu ces jours-ci, le contexte et les tensions qui se sont créées, notamment avec ce qu'on appelle l'injustice sociale, les bâtiments et les logements sociaux qui sont adaptés pour le confort d'hiver mais pas le confort d'été. Et donc, cette inégalité, on la retrouve par rapport, par exemple, à des solutions techniques qui sont apportées pour les habitants qui ont plus de moyens. Donc la question des moyens, justement, c'est certains donc, se sont équipés de clim, par exemple. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres alternatives quand on parle de moyens à la sobriété, par exemple?
Oui, et justement, c'est une bonne question. Et en fait, on va peut-être parler de ça directement. Je ne vais pas rappeler les chiffres de l'adaptation, il y a plein de gens qui l'ont fait ce matin, c'était assez déprimant déjà. En fait, quand on parle d'adaptation, l'adaptation et l'atténuation, elles vont main dans la main, elles n'agissent pas au même endroit dans la crise climatique. Et c'est là où toute la question de la justice sociale, elle vient, elle est essentielle, puisque il y a des enjeux de quand c'est technique, ça coûte cher, il faut réussir à l'installer, on ne sait pas toujours le réparer, etc. Et ce n'est pas accessible à tout le monde. Et donc c'est pour ça que quand on parle de solutions d'adaptation, il y a des tas de solutions d'adaptation, les solutions vertes fondées sur la nature, dont Laurent, je ne sais pas s'il est dans la salle, sur laquelle Laurent a essayé d'insister ce matin. Il y a les solutions grises, les solutions techniques. Les solutions techniques qui apportent des solutions, on ne va absolument pas dire qu'il ne faut pas de technique, il faut bien se protéger des inondations, se protéger de la chaleur, il faut résister à tout un tas d'aléas. Et puis il y a tout aussi des approches douces qui sont très souvent négligées, parce que de façon très pragmatique, et si je veux être cynique, c'est difficile de les valoriser dans la taxonomie européenne, dans différentes choses, donc c'est difficile de valoriser ce genre de choses, donc on ne s'y intéresse pas trop. Et aussi parce que ça nécessite de réorganiser notre rapport à l'espace, notre rapport au bâtiment. Et pourtant, par rapport à des solutions techniques, les solutions douces, les solutions d'usage, sont beaucoup plus résilientes donc en termes d'adaptation. Une solution technique, ça marche tant que ça marche.
Une solution technique, c'est aussi une vision peut-être à plus court terme. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on peut parler aussi de maladaptation dans certains cas, avec les impacts et les conséquences.
Exactement. C'est-à-dire que la solution technique...
L'exemple de la clim, par exemple. L'exemple de la clim. Voilà, ça a été déjà évoqué ce matin. Ça refroidit un endroit, mais ça va réchauffer un autre. Donc les voisins d'à côté, ils vont être très, très contents.
Ça le ferait. On va pas laisser mourir les personnes âgées dans les EHPAD, ni les bébés dans les crèches. Donc évidemment qu'il faut une solution à court terme pour... et une solution clim. Mais la clim, ça pose un problème en soi, c'est-à-dire que en termes de, c'est un peu l'exemple typique d'une solution technique qui peut très vite devenir une maladaptation, c'est-à-dire qu'on rajoute un niveau de complexité, et plus c'est complexe, plus ça casse facilement. Il suffit que quelque chose casse. Si on s'appuie sur notre clim, on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que la clim, ça consomme de l'énergie, ça émet des gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas tant ça le problème, c'est que la technique elle-même de la clim, elle utilise des gaz, des fluides frigorigènes qui sont hautement à effet de serre. Et donc, le recyclage de la clim, c'est très compliqué. Donc, ça empire le problème à long terme. Et puis, à très court terme aussi, si on fait du froid de quelque part, on fait du chaud ailleurs. C'est le principe thermodynamique, quoi. On fait du froid, on fait du chaud. On réchauffe l'extérieur. Bon, vous me direz, c'est pas très grave. Mais en réalité, il y a pas mal d'études, notamment une étude qui démontre que sur une ville comme Paris, la massification de la clim, c'est plus 2 degrés sur l'ensemble de la ville. C'est quelque chose qu'on voit déjà à Phoenix, en Arizona, par exemple. Ça fait plus 3 degrés sur une ville qui est déjà extrêmement chaude. Et donc vous me direz, ouais, bah, c'est pas très grave, 2 degrés localement à Paris, qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses avec l'histoire de justice climatique. Il y a des gens qui travaillent dehors, il y a des gens qui vivent dehors. Donc nous, pour vivre tranquillement dans notre petit bureau climatisé, on rend la vie d'autant plus difficile pour ceux qui ne peuvent pas s'y abriter et pour nous quand on sort.
Cumulé aux effets de bitume foncé, effectivement.
Parce que là, bien sûr, parce que
le traitement des sols aussi, très important.
Voilà. Exactement. Et donc, c'est un exemple parfait de comment une solution technique, si elle est mal pensée, si elle est mal réfléchie et si elle est appliquée trop massivement, ça devient de la maladaptation. Donc, je vous mets juste aussi, là, je balance plein de trucs, mais c'est surtout des références, si jamais ça vous intéresse de chercher un peu la notion de maladaptation. Ce qui est important à comprendre, c'est que la maladaptation, elle a un report à la fois temporel, donc c'est l'histoire de la clim, quand on émet plus de gaz à effet de serre, on empire le changement climatique plus tard, et un report de vulnérabilité spatiale. C'est-à-dire qu'il fait froid chez moi, mais j'aggrave le problème chez le voisin juste à côté. Et donc, tout ça pour dire que si on se concentre non pas sur des solutions techniques coûteuses, énergivores, etc., pour mener à bien des solutions d'adaptation, et qu'on se concentre un peu sur les usages, peut-être qu'on va réussir à imaginer de nouvelles façons d'occuper nos bâtiments qui seront à la fois sobres et à la fois résilientes.
Donc là, maintenant, on va vous parler un peu de ces leviers d'adaptation sur la base de cas concrets, d'exemples. Et avec la vision de Victor International.
Exactement. Donc, la thèse qu'on va essayer de défendre là et qu'on va essayer de vous convaincre, vous devez partir en sachant ça, c'est qu'on va essayer de montrer que la sobriété, ça rend l'adaptation possible et que l'adaptation elle-même donne une finalité enviable, heureuse à la sobriété. On revient à la discussion du début, on n'est pas là pour se contraindre, on est là pour améliorer nos conditions de vie. Bon. Alors, une des techniques et une façon de travailler qui nous intéresse beaucoup, qui nous a intéressé, c'est de travailler sur l'usage. Comment on intensifie l'usage de nos bâtiments? Ils ne sont pas utilisés la nuit, ils ne sont pas utilisés le week-end, il y a de la vacance, etc. Donc, on a des bâtiments, on en a plein, il faut qu'on les utilise. Donc, on a plein de leviers pour réussir à les utiliser. Et un des premiers, c'est de réfléchir au fait qu'on a très, très sectorisé notre façon de vivre et d'occuper les bâtiments. On a un bâtiment, une fonction, un bâtiment. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler très facilement.
Et avec une approche en temporalité.
Exactement.
Et je te laisse justement donner la définition de l'hybridation, de la mutualisation et de la chronotopie, qui sont des mots qui doivent être d'actualité dans tous vos programmes.
Alors effectivement, c'était un peu des gros mots, hybridation, mutualisation, chronotopie. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, on est là, un usage principal avec un utilisateur principal. Et ce qu'on veut, c'est essayer de créer les moyens d'agrandir et de changer notre imaginaire sur comment on occupe le bâtiment. Donc déjà, on a vu quand il fait trop chaud, comment on s'adapte facilement, comment on occupe nos bâtiments, on les occupe quand il fait moins chaud. Donc on élargit nos horaires d'utilisation pour notre utilisateur principal. On travaille sur la temporalité. On peut aussi imaginer qu'on peut partager un bâtiment, puisqu'on a peut-être on a du télétravail, on a 3 plateaux qui sont libres, est-ce qu'on n'irait pas trouver un autre locataire pour partager avec nous? Donc on ajoute de nouveaux utilisateurs. Après, de la même manière qu'on a un bâtiment, il est vide le week-end. Un bâtiment de bureau, une crèche, c'est vide le week-end. Est-ce qu'on ne trouverait pas des nouveaux usages? Et après, si on a lié le tout, des nouveaux utilisateurs, des nouveaux usages, des nouveaux horaires, blablabla, on a des choses absolument incroyables. Quoi. Ça se combine. Donc ça, c'est ce qu'on a résumé en trois mots-clés. Donc l'hybridation, qui désigne le fait qu'on affecte plusieurs usages à un même bâtiment. La mutualisation, c'est le fait qu'on partage certains usages, certaines fonctions entre différents utilisateurs qui ne sont pas les mêmes. Quoi. Et après, la chronotopie, c'est vraiment jouer sur les temporalités du bâtiment, venir chercher tout le foncier disponible. Mais en fait, le foncier, le temps comme foncier, c'est un peu ça qu'on vient essayer de venir chercher là, c'est le foncier, ce n'est pas juste la terre, c'est aussi le temps qu'on occupe cette terre-là.
C'est les ajouts de valeurs supplémentaires qui sont à la fois des valeurs d'usage social et des valeurs également économiques. On verra la conséquence aussi en matière d'assurance et autres.
Et voilà, exactement. Exactement, c'est qu'en fait, par une approche comme celle-là, on peut aussi venir chercher de la valeur. C'est exactement ça. Un bâtiment qui est plus utilisé, il peut être plus loué, etc. C'est créateur de valeur, non seulement sociale quand on permet à d'autres gens d'occuper un espace, mais purement et simplement de l'argent quand on arrive à le faire. Donc, quelques exemples de comment on peut mettre en œuvre ces techniques, qui sont à la fois des techniques de sobriété d'usage, mais aussi des techniques d'adaptation. Donc, on a par exemple les exemples de cours oasis, ou alors, comme on dit à New York, les Green Community Schoolyards. Donc l'idée c'est assez simple, hein, c'est de partir du principe qu'on a des cours d'école qui ne sont pas utilisés pendant les vacances scolaires, qui ne sont pas utilisés l'été quand il fait chaud. Souvent c'est du béton sur lequel on fait jouer les enfants au basket. Bon, changement climatique, il fait chaud, etc. Est-ce qu'on ne va pas essayer de désimperméabiliser tout ça pour déjà apporter de la fraîcheur? Mais en plus, quitte à avoir fait ça et avoir des espaces qui sont sympathiques, autant les ouvrir aussi en dehors des horaires d'école pour faire des espaces refuges en cas de canicule, pour offrir des espaces verts dans des zones où il n'y en a pas, etc. Donc ça, c'est des projets qui existent vraiment sur la ville de Paris, sur la ville de New York, et c'est des projets qui adaptent à la fois, qui viennent à la fois travailler le foncier disponible et à la fois les solutions d'adaptation. On a d'autres solutions sur le logement, par exemple, où on peut venir. Bon, tout à l'heure, on était assez critique. David était assez critique du fait de partager des espaces dans un logement parce que c'est une excuse pour continuer à avoir des appartements tout petits. C'est pas faux. Mais c'est aussi des choses à travailler en termes d'accessibilité au logement. Par exemple, là, c'est une entreprise australienne qui fait du logement social, enfin du logement mixte, social, pas mixte, et qui travaille beaucoup sur la mise en commun des espaces dans un complexe d'appartements. Donc, on peut louer des appartements, mais il y a des tas d'espaces en commun, notamment les buanderies, mais aussi, par exemple, des chambres d'amis, des cuisines partagées, des grands salons, etc. Donc, en fait, finalement, les parties communes deviennent vraiment des parties étendues du logement qu'on peut réserver quand on a ses parents qui viennent dormir, etc., pour payer un loyer qui reste raisonnable, avoir un appartement qui reste raisonnable et partager les mètres carrés qui ne servent finalement pas tout le temps.
Sachant que ça commence à se faire, bien entendu, par chez nous, l'ampleur est plus importante dans les pays anglo-saxons parce que culturellement, le partage se fait de manière plus aisée que par chez nous où on est plus individualiste.
Et c'est aussi... Ces techniques-là, là, qu'on peut croire que c'est des calculs d'apothicaire pour économiser du loyer, etc., c'est aussi des énormes techniques d'adaptation, notamment la question qu'on soulevait tout à l'heure, que Ariella soulevait tout à l'heure sur recréer de la communauté ou le géocare, le care. Quand on partage des espaces avec ses voisins, quand on est obligé de communiquer avec eux pour partager, on est obligé de créer du lien. Quand on partage la cuisine, quand on partage les chambres à coucher, etc., donc on crée du lien, et donc ça crée de la résilience en période de canicule. On connaît ses voisins, etc. Et puis, on a des espaces qui sont plus grands, plus aérés quand les gens bougent, donc ça résiste beaucoup mieux à la chaleur, notamment.
Je précise qu'effectivement, ça participe à ce care, donc avec la définition qui est bien de prendre soin de soi, des autres, de la biodiversité. Donc, c'est vraiment prendre soin du vivant sous toutes ses formes et qui va participer aussi en matière de prévention, en matière de santé, que ce soit santé physique ou mentale, par exemple, de se préoccuper de son voisin, de tout ça. Donc, comme dans les années à venir, on va avoir aussi ces pénuries en matière de professionnels du monde de la santé, notamment en gérontologie, il va bien falloir se prendre en charge et créer des liens de solidarité entre nous.
Voilà. Un autre exemple qui peut être assez intéressant, c'est tout ce qui est réversibilité des bâtiments. C'est-à-dire que, on l'a vu, les bâtiments, enfin je l'ai expliqué, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les bâtiments sont très rigides, c'est très difficile de changer leur structure. Pourtant, il y a quand même des gens, par exemple là, c'est un projet de résidence étudiante à Palaiseau, qui est complètement réversible. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie d'étage avec des résidences étudiantes, et là, c'est des parkings. Et en fait, le plan, c'est littéralement le même. Et donc, les bâtiments, les appartements sont convertibles en parking s'il le faut, les parkings sont convertibles en appartements s'il le faut. Et même au-delà de ça, les appartements, ils vont du T1 au T3, et la façon dont la structure du bâtiment est pensée, elle est faite pour qu'on puisse convertir très facilement les T1 en T2, en T3, etc., vice-versa, dans tous les sens. Pourquoi c'est hyper intéressant en termes d'adaptation au changement climatique ? Parce qu'on peut suivre les besoins, un bâtiment qui est prêt à changer en fonction de sa programmation, c'est aussi un bâtiment qui est prêt à changer en cas d'urgence. Donc en cas de crise, en cas de catastrophe, c'est un bâtiment qui est prêt à être transformé très facilement pour partager des espaces. La catastrophe, c'est toujours quelque chose auquel on ne pense pas trop, mais c'est aussi un bâtiment qui finalement est prêt pour des nouvelles façons, des nouveaux usages.
Et notamment la saisonnalité,
exactement.
L'été, l'hiver.
La saisonnalité, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas du tout. Et pourtant, avec un bâtiment qui est prévu pour être réversible, où les pièces peuvent être changées, on pourrait imaginer dans le futur travailler beaucoup sur déplacer les pièces l'été, l'hiver, en fonction de là, est-ce qu'on cherche la chaleur, est-ce qu'on cherche la fraîcheur. Donc ça, c'est exactement ce dans quoi on va essayer de vous amener, des nouveaux imaginaires sur comment on vit dans nos bâtiments. Alors à l'heure actuelle, on n'a peut-être pas envie de déplacer sa chambre, son salon, tous les 6 mois, l'été, l'hiver, mais ça peut être des façons de s'adapter qui sont envisageables et qui ne coûtent pas grand-chose finalement. Donc ça marche pour les logements, mais ça marche aussi pour les bureaux. Si on prévoit les plans des plateaux pour que ça soit facilement bougeable, comment ne pas mettre les salles de réunion sur la façade sud et faire un petit buffer où là, il fait très chaud dans la salle de réunion, mais dans l'open space, ça reste aéré. Voilà, c'est en permettant des bâtiments, en pensant bien nos bâtiments et en les travaillant dans la sobriété, ils offrent des possibilités d'adaptation. Tu veux réagir à ça ou...
Non,
c'est bien. Voilà. Ah, ça, c'est un autre projet qui me tenait un peu à cœur de vous présenter. Donc, c'est la rénovation d'une mosquée au Niger par Mariam Issoufou. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui a été Grand Prix de la Terre l'année dernière.
Une femme architecte d'origine africaine.
Nigérienne.
Nigérienne et qui mérite d'être connue.
Oui. Qui fait un travail, qui travaille beaucoup sur la création de centres, recréer la communauté à partir d'architecture traditionnelle. Et là, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on hybride un lieu de culte, un lieu de savoir, donc une école. On a complètement retravaillé tout le lieu pour rénover la mosquée, créer une école, associer à ça des ateliers d'artisans pour que le lieu soit occupé 24 heures sur 24, toute la journée, au centre de la ville. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on utilise des techniques traditionnelles locales pour, dans ce projet-là en particulier, mais elle ne fait pas ça dans tous ses projets, mais dans ce projet-là, les ouvriers qui ont rénové la mosquée, c'est ceux qui l'avaient déjà construit il y a 30 ans. Et donc finalement, c'est aussi faire travailler de façon résiliente l'écosystème, puisqu'on offre à la communauté les capacités de s'entretenir elle-même. Ça crée de la résilience puisque le bâtiment est utilisé, ça crée un centre de communauté et ça permet de développer de nouvelles activités. En travaillant l'usage maximal du foncier, on devient résilient. Voilà, ça c'est un projet, je vous invite à aller le regarder. Ça c'est un projet par chez nous plutôt, où je voudrais vraiment insister sur le fait que tout à l'heure j'ai dit que la sobriété c'était une combinaison de politique publique et d'engagement des citoyens. On ne peut pas juste attendre que les gens changent. Il faut leur donner les moyens de changer. Et donc, les politiques publiques doivent favoriser les changements de comportement, mais nous, vous, dans cette salle, quand on crée des espaces, on doit offrir des espaces qui favorisent les comportements sobres. Et ce bâtiment-là, qui est un projet qui est porté notamment par Altaria, qui peut-être était représentant d'Altaria ici, qui est vraiment intéressant dans le sens où tout le bâtiment a été pensé pour favoriser les comportements sobres. De façon très simple, par exemple, tous les couloirs, tous les escaliers, toutes les passerelles sont visibles et les ascenseurs sont cachés. Donc c'est très très simple de faire ça, mais ça incite les gens à prendre les mobilités douces, à prendre les escaliers, à prendre les couloirs qui sont mis en extérieur sur l'intérieur de la cour. Qu'est-ce que ça fait ? Ça paraît un peu bête de nous dire on va se forcer à prendre les escaliers. Mais ça crée du lien dans la communauté. Ça aussi, on économise la consommation d'énergie de l'ascenseur de façon très simple.
Et ça participe à la santé également, parce que dans l'urbanisme du Caire, c'est ce qu'on fait. On met toujours l'escalier visible dans les espaces.
Exactement.
Et donc, ouais. Ça participe de la prévention en matière de santé, voilà. Parce que la vie, c'est le mouvement. Donc, il faut bouger.
Et donc ça, c'est un exemple typique de comment vous, aménageurs, architectes, etc., vous pouvez inciter des comportements sobres par le design. C'est aussi en offrant la capacité aux gens d'être sobres et de favoriser le lien que les gens vont le faire. S'il n'y a pas les espaces pour le faire, on ne le fait pas. Et l'autre aspect qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on retrouve aussi un habitat qui est modulaire, c'est-à-dire que tous les appartements sont changeables. On peut diviser la structure même de tous les plateaux est réversible, changeable. Donc un appartement qui est un T2 peut devenir un T3, on peut rattacher une pièce, on peut en détacher, on peut mettre une pièce en location facilement. C'est un bâtiment qui est conçu pour changer. Et donc encore une fois, là c'est un bâtiment qui a été conçu pour être sobre, mais il suffit d'un petit pas de côté en plus pour que ce bâtiment devienne adapté en favorisant le changement des espaces. Bon, c'est peut-être un petit peu idéaliste, je veux dire, encore une fois, est-ce qu'on va changer 36 fois de taille d'appartement dans sa vie ? Mais c'est des bons exemples, je pense, pour commencer à réfléchir à de nouvelles façons d'imaginer nos bâtiments. Voilà. Un dernier exemple, un avant-dernier exemple. Cette fois, je parlais de la ville de Montpellier qui force la mixité d'usage, donc l'hybridation, sur tout son territoire, sur quasiment tout son territoire. Donc, ce qui fait qu'on crée des bâtiments comme ceux-là où on mélange différentes fonctions. L'idée, c'est aussi de pallier toutes ces vulnérabilités qu'on peut avoir en condensant les activités dans un même lieu. On habite, on travaille dans un même endroit. Et ça réduit les vulnérabilités au changement climatique, notamment parce que ça réduit le déplacement, ça réduit les réseaux. On est moins sensible aux disruptions qu'ils peuvent avoir suite à des aléas quand on concentre les activités au même endroit. On n'est pas séparé de son travail, on n'est pas séparé de ses loisirs, et donc tout ça, c'est plus résilient. Et le dernier point, c'est un exemple de chronotopie, donc je ne sais pas si vous connaissez le garage à Lille, qui est un bâtiment qui est aussi utilisé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des bureaux en journée, le soir, c'est un bar, et le week-end, c'est des boutiques. Et donc, ça demande énormément, énormément d'organisation. Il y a des personnels qui sont bien sûr occupés, qui gèrent les réservations, qui gèrent le déplacement de tout le mobilier à l'intérieur du bâtiment. Mais pourquoi je trouve que c'est un bon exemple pour illustrer les stratégies d'adaptation ? Encore une fois, parce que du coup, un bâtiment qui est prévu comme ça, c'est un bâtiment qui sait gérer les accès de différentes personnes avec différentes autorisations. C'est un bâtiment qui sait changer de mode très rapidement. Et donc, c'est un bâtiment qui est flexible, qui est adaptable, et donc qui peut répondre à tous les enjeux qui peuvent être jetés à lui en cas d'incident climatique, en cas de catastrophe, mais juste aussi pour répondre aux aléas du quotidien. Donc voilà, tout ça, c'est des projets qui existent déjà, et on voit que dans certains cas, on avance, on peut facilement imaginer de l'adaptation par-dessus la sobriété, et dans certains cas, il faut aller un petit peu plus loin et imaginer de nouveaux usages. Et c'est vraiment tout ça qu'on essaie de porter là. Comment on essaie d'aller plus loin ? Est-ce que, voilà.
Et là, pour le dernier point qu'on voulait aborder avec vous, un élément très important dans tout ça, c'est l'humain. Donc c'est à la fois les métiers et l'évolution des métiers. C'est aussi le rôle de chacun, c'est toute la filière. Le rôle également des habitants, qui sont acteurs du projet, on l'a vu dans les exemples qui sont abordés. Ça signifie que l'habitant n'est pas passif, il participe également à la vie de son logement, aux liens sociaux qui se créent, à cette nécessité de solidarité. Et c'est justement ces nouveaux métiers, l'évolution un petit peu, le rôle de chacun.
Oui, exactement. On a vu les bâtiments, il faut qu'ils soient adaptables, mais il faut aussi que nous, on s'adapte dans ces bâtiments-là. Et donc, nos métiers doivent évoluer un petit peu. C'est notamment le travail qu'on mène avec le groupe que j'encadre, Adaptation Hub, à l'Alliance mondiale, pour le bâtiment et la construction. On travaille beaucoup sur la transformation des métiers de la chaîne de valeur de l'immobilier. Donc ça, je vous montre un peu nos travaux, où on essaye de prévoir et de suggérer quels devraient être les changements qui doivent être faits dans tous les métiers. Je vous mets ça pour référence, je fais ma pub encore une fois, si ça vous intéresse de lire, c'est en anglais. Ça sera traduit en français bientôt. Voilà. Mais du coup, je vais donner quelques exemples et réfléchir un peu ensemble comment on peut transformer nos propres métiers. J'imagine que vous êtes autour de la table peut-être asset manager. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression que l'asset manager a un rôle clé dans toutes ces dynamiques de transformation d'usage de nos bâtiments. C'est, d'ailleurs, l'asset manager est déjà au centre de toutes les dynamiques liées à la réduction des consommations d'énergie, à l'empreinte carbone, enfin les comités verts. C'est des choses qui existent déjà. ULI propose déjà beaucoup de matière pour aider les asset managers à être un acteur charnière. Pourquoi on pense que les asset managers, c'est des acteurs charnières ? Parce qu'ils font lien entre les propriétaires, qui sont souvent que des investisseurs, qui ne connaissent pas la réalité du terrain, et puis les locataires, les occupants. Et donc finalement, ils ont un rôle clé. Et donc transformer leur métier au-delà de juste gouverner ce qui se passe, c'est vraiment gouverner l'organisation à l'intérieur d'un actif même. C'est lui qui peut être en charge de partager des données, de créer des données, de trouver de la donnée. C'est lui qui peut suggérer les travaux. C'est lui qui peut suggérer aussi les évolutions dans la vie du bâtiment avec les managers, avec les habitants. Donc un bâtiment résilient, on l'a déjà dit, ce n'est pas du tout un bâtiment qui est technique, c'est un bâtiment qui est occupé par un collectif organisé. Et pour nous, l'asset manager, il a un rôle essentiel à jouer. Pareil, c'est une référence que vous pouvez lire là. Voilà, c'est pas moi qui l'ai écrite.
En anglais.
En anglais. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais vous pouvez la lire quand même. D'autres gens qui peuvent se transformer, et ils en ont un petit peu parlé tout à l'heure.
Rôle très important, bien sûr.
Rôle très important. Les assureurs, les financeurs. Je vous remets cette étude de l'Institut for Climate Economics, I4CE. C'est en anglais, mais ils sont français, donc il y a aussi la même chose en français. Sur comment on peut transformer les métiers de la finance dans l'immobilier. Et moi, je veux vraiment parler de l'assurance. Les nouveaux modèles pour les assureurs, comment ils peuvent transformer leurs pratiques. Il y a un exemple que je trouve absolument intéressant, c'est la ville de Calgary, qui travaille au Canada, qui travaille énormément avec ses assureurs pour lutter contre les aléas climatiques liés à la grêle, par exemple. Et donc, il s'est passé, il y a quelques années, là, 5-6 ans, où la ville de Calgary a lancé un énorme programme avec l'ensemble des assureurs de la ville, la Confédération des assureurs de la ville, pour non pas juste réagir, mais être proactif et subventionner la mise en place de tuiles résistantes à la grêle, sachant que la ville de Calgary est très sujette à la grêle. Donc ça, c'est un peu transformé le rôle de l'assureur. Est-ce que l'assureur il est juste là pour réagir ou est-ce qu'il est aussi là pour prévenir ? Et donc ce qu'ils ont pu remarquer avec cette étude-là, c'était assez massif, pour tous les participants, tous les habitants de la ville qui étaient volontaires et qui étaient assurés, ils partageaient à 50% les assureurs et la ville pour subventionner ces tuiles, et ceux qui n'étaient pas assurés, c'était la ville qui subventionnait à 100% les tuiles. Donc ça a coûté énormément d'argent à la ville de Calgary, mais, et à leurs assureurs aussi. Mais le retour sur investissement, il est très compliqué à calculer, mais les assureurs au Canada sont très bien organisés. Donc si vous voulez réfléchir à comment transformer les assurances en France, inspirez-vous, il y a l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques, qui est un institut de recherche spécialisé dans l'adaptation à la résilience, financé uniquement par tous les assureurs du Canada. Et donc, ils étudient énormément ce genre de choses pour comprendre quand est-ce qu'ils peuvent faire transformer leur métier. Et là-dessus, ils se sont rendus compte que, en ayant participé à ce projet-là, de financer des rénovations, le retour sur investissement pour les assureurs, c'était de 1 sur 2, par rapport à juste 1 dollar investi. Ils en récupéraient 2 en, pas claims, comme on dit, en... il n'y avait pas eu de dégâts qu'ils n'ont pas dû rembourser. Donc, sur 5 ans, ils ont gagné 2 fois plus d'argent que ce qu'ils avaient investi, en termes de coûts maîtrisés. Et pour la ville de Calgary, à l'échelle de la ville, puisqu'il y a aussi beaucoup de gens aux États-Unis, au Canada, les gens ne sont pas obligés d'être assurés, à l'échelle de la ville, ça a été un retour de 1 pour 8. Ça veut dire qu'ils ont retrouvé 8 fois leur investissement sur 5 ans en termes de coûts non assumés pour réparer.
Une petite chose sur les assurances. On a aussi en France AXA Climate, qui est géré par Antoine Denoy, je vois certains qui connaissent, qui travaille justement aussi sur la prévention des risques climatiques. Et ils vont assez loin, puisqu'ils ont sorti donc, l'année dernière le livre blanc sur le côté prévision pour agir, et notamment former les entreprises et leurs clients à travers des approches qui sont systémiques sur l'évolution de leur métier, enfin les métiers de leurs clients. Donc c'est passionnant parce qu'on est au début effectivement d'un changement aussi de paradigme au sein du métier de l'assurance, de la finance également sur les valeurs dites vertes, les valeurs sociales, autres que les valeurs financières. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger, les lignes bougent.
Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est réfléchir, quand on dit changer les imaginaires, c'est réfléchir non seulement à comment on habite nos bâtiments, mais aussi comment nos métiers évoluent pour plus de sobriété et plus d'adaptation. Bon, je vais finir par un petit exemple pour parler des collectivités, parce qu'on a sans doute des élus dans la salle. Les collectivités aussi, elles ont un rôle à jouer, et notamment sur leur pouvoir de planning, le PLU. Bon, on ne va pas demander à des petites villes de mettre un PLU bioclimatique comme la ville de Paris l'a fait ou comme d'autres sont en train de l'étudier, d'autant plus que bon, y a plein d'autres soucis qui sont liés à ça. Mais il y a des choses très simples que les villes peuvent faire, et notamment par exemple en Inde, ils s'en saisissent énormément parce qu'ils ont, on ne va pas se cacher, des problèmes de température extrême. Et donc il y a énormément de villes, de collectivités en Inde qui mettent en œuvre des obligations de toit blanc, par exemple, et de blanchir les toits pour réfléchir plus facilement à la lumière du soleil. Et à l'échelle de villes qui ont réussi à déjà déployer ça, on a gagné 1 ou 2 degrés dans des villes qui sont autrement invivables. Bon, elles sont toujours invivables, parce que, mais moins invivable. Et donc voilà, c'est aussi des choses assez simples que même les villes peuvent subventionner, qui ne coûtent pas très cher, mais des obligations qui peuvent fonctionner. Et donc c'est aussi retravailler, repenser ce que c'est que la gestion des villes. Voilà, c'est un peu la conclusion de ce qu'on veut dire.
On voulait vous laisser, bien sûr, réagir et échanger tous ensemble. Et cette slide, c'est juste pour donner une synthèse, un petit peu un résumé de ce qui a été abordé là actuellement. Donc voilà, en matière de vision des nouveaux imaginaires, donc passer d'un actif immobilier au bâtiment dit service, hein, réfléchir donc aux besoins et aux usages, un bâtiment performant, un bâtiment qui est capable, d'un neuf désirable à l'existant transformé et désirable, de la propriété fermée à un commun qui peut être climatique, d'un confort qui est standardisé à un confort qui est sobre, passif, adaptif. Voilà. Et puis bah, tout ce qui va avec, on évoquait le changement, bien sûr, de comportement, qui va être l'élément indispensable. On parle de changement de paradigme. C'est sûr qu'être dans le flexible, le partage, la solidarité, ça a été déjà abordé ce matin. Et c'est vraiment le leitmotiv un peu de tout ça aujourd'hui. C'est que c'est un changement qui est culturel, avant tout. Voilà.
Voilà, donc c'est notre conclusion. Un changement qui doit être culturel et porté par toutes et tous pour transformer nos métiers et imaginer de nouveaux.
Ça nécessite voilà, ouais, l'hybridation des documents d'urbanisme, des normes URP. Enfin, voilà, il y a aussi cet aspect réglementaire des choses, bien sûr. Les choses doivent évoluer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est tous ensemble, tous les acteurs de la chaîne de valeur, de la production et de la transformation en fait, de la ville. Voilà. On vous laisse réagir.
Vous avez des questions, levez la main.
Ouais. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Isabelle Le Savre, architecte de l'agence Villebois. Et en fait, je fais face, on fait beaucoup de RP, on fait beaucoup d'habitations, on est assez large, notre spécificité, c'est le bois. Donc, je suis absolument convaincue avec tout ce que vous venez de dire. Mais je vais donner un exemple tout bête qui dit bien qu'il faut que les choses bougent. C'est qu'il y a un paradoxe, c'est que dans les ERP, je reprends juste l'exemple des escaliers et l'ascenseur, dans les ERP, on n'a pas le droit de mettre un escalier devant un ascenseur. Il faut qu'il soit au même niveau. Donc rien que ce petit paradoxe-là, eh ben, nous, on est face à ça. Et ça, pour la discrimination et la solidarité. C'est-à-dire que c'est le même discours. Voilà. Donc c'était juste... juste pour dire qu'on était face à des contradictions et on ne savait pas comment les gérer.
Non, bien sûr. Pardon. Je ne peux pas trop répondre à ça. C'est vraiment quelque chose dont on a parlé ici. Les normes ERP, évidemment, c'est quand on dit politique publique, engagement des citoyens, effectivement, il faut trouver le juste milieu entre donner la possibilité, mais toujours cet accès, cette justice dont on a parlé au début aussi, qui est vraiment essentielle. Moi, je ne suis pas assez spécialiste de ce détail-là, mais je suis totalement d'accord avec vous. Il y a des choses qui ne font pas sens parfois. Ariella.
Donc, beaucoup d'exemples que vous avez montrés sont du bottom-up. La majorité, ce sont des collectivités, des collectifs qui décident de faire quelque chose, comme le garage à Lille. Dans les propositions que vous faites, il y a des choses qui s'adressent à la planification, les PLU, il y a des choses qui s'adressent aux bâtiments, et des choses qui s'adressent à la chronotopie. Il faut dire que les Italiens, ils nous ont anticipé. Moi, j'ai écrit un texte il y a 20 ans là-dessus. Malheureusement, ça évolue très peu. Donc, ça s'adresse à des acteurs différents. Pour mettre en œuvre ce que vous proposez, ça s'adresse à des évolutions de politique publique, à des évolutions de normes, comme ça a été dit, à des engagements politiques d'une collectivité et à la commande de donneurs d'ordre. Si ça n'existe pas, ça va continuer à être des petites expérimentations qui ne seront pas l'ordinaire de la ville. Alors, je cite juste un exemple sur lequel j'avais travaillé et fait un livre en son temps. C'est New York du temps de Bloomberg. Parce que là, on avait un maire exceptionnel qui voulait faire une ville belle et écologique, qui s'est entouré de gens tout à fait remarquables auxquels il a confié des responsabilités énormes, ce qu'on ne connaît pas en France, par exemple. J'avais assisté à la télé Il y avait le directeur des espaces verts que je connaissais qui annonçait, lui, et pas le maire, qu'on interdisait la cigarette dans les parcs et dans les rues. Ça n'existe pas en France, ça. Ça veut dire qu'une délégation très, très forte à des gens remarquables qui mettent en œuvre une politique. Il y avait les toits verts, il y avait les planter 100 000 arbres, etc., plein YC. Et la planification n'était pas ce que nous faisons à la française, mais c'était une sorte de charte à laquelle se sont associés de très, très nombreux acteurs. Et c'était le fil conducteur des actions. Donc là, on a un engagement politique extrêmement fort pour faire le territoire, autrement la métropole. Donc, à votre avis, pour mettre en œuvre ce que vous proposez, qu'est-ce qu'il faudrait ? Parce que là, vous avez des architectes dans la salle, ils répondent à une commande, des promoteurs, ils répondent à une commande d'aménageurs. Donc, comment on met en œuvre pour que ce ne soit pas simplement des niches ?
Oui. J'ai donné quelques éléments de réponse. Enfin, si j'avais cette réponse, je pense que je ne serais pas ici, je serais à l'Élysée. Non, je rigole. C'est un des premiers aspects, c'est que sous ces projets pilotes, qu'il y ait des gens qui soient motivés. Moi, je n'aime pas trop dire ça, mais c'est quand même quelque chose qui marche un peu, c'est de démontrer. On démontre qu'il y a des choses qui marchent. Et donc, c'est en ayant des gens qui sont motivés pour faire des choses, des projets, nanana. Pardon, c'est moi qui ai appuyé sur ça ? Bon, c'est pas grave. C'est reparti au début. Démontrer qu'il y a des choses qui marchent, attirer l'attention du pouvoir public. On a vu, moi je vais prendre juste l'exemple de ce qu'on a fait à l'OID, les travaux qu'on a pu mener sur la charte tertiaire. Ça n'a rien à voir. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque la charte tertiaire qui précédait le décret tertiaire où des acteurs se sont rassemblés, des acteurs de notre industrie se sont rassemblés pour ensemble agir sur une charte volontaire qui préfigurait le décret tertiaire. Et ensuite, cet engagement volontaire-là a orienté les politiques publiques. Bon, ça a mis 15 ans, mais ça a marché. Ça a orienté les politiques publiques qui sont devenues maintenant le décret tertiaire et malgré tout. On est en train d'essayer de commencer quelque chose de nouveau avec une charte d'adaptation où c'est pareil, on est soutenu par le gouvernement, mais de très très loin, en disant, on vous suit et on regarde ce que vous faites. Et donc c'est aussi...
Le problème, c'est qu'il faut du temps de changement en fait, des habitudes. C'est pour ça que... aussi sur les lois de simplification aussi en représentant le métier d'aménageur au niveau national. Il y a une inertie, il y a la volonté, alors qui doit être politique, parce que ça va être déclenché politique nationale et politique locale, des politiques aussi, en plus de...
Ariella veut nous faire dire, comme tu as dit ce matin, qu'il faut qu'on vote, voilà. Non, je rigole. Ah oui, bah évidemment.
Quand on parle projet urbain, moi j'ai porté la question du projet urbain au niveau national, la vision française est très souvent une opération d'urbanisme. La vision anglo-saxonne, c'est a vision. What's the vision for the city? Donc c'est quelle ville je veux être. Et en France, on a des maires, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui portent une vision pour leur territoire et au-delà de la ville, donc sur la métropole. Et c'est là que ça commence à changer. Donc pour ça, il faudrait qu'il y ait une société civile qui fasse des initiatives, comme vous avez montré, des initiatives locales qui remontent et qui démontrent aussi que c'est faisable. Mais à un moment donné, sans un engagement politique, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. À Oslo, par exemple, si un promoteur ne peut pas construire, s'il ne remet pas en eau les ruisseaux en terre, il ne peut pas le faire. Il n'a pas le droit. Donc à un moment donné, ça se traduit même par une règle. Et là, on ne discute pas. Et en fait, en plus, le rôle des assureurs est très intéressant parce que les assureurs assurent moins cher si l'eau qui est dans les tuyaux remonte et si on fait un projet urbain autour de ça. Donc voilà, donc à un moment donné, ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce que vous avez montré, ça doit se traduire en stratégie, en vision, avec des dispositifs dont certains sont incitatifs, d'autres sont obligatoires pour pouvoir passer à l'acte, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et en France, on a la chance d'avoir quand même un certain nombre de villes qui ont progressé beaucoup plus vite que l'État et qui ont inspiré l'État. Et c'est là que c'est intéressant. Ça veut dire que c'est parce qu'elles sont passées à l'acte qu'il y a des politiques publiques, parce que les villes ont démontré que c'était possible.
L'échelon local, surtout par l'adaptation, c'est l'échelon 1. C'est bon. Merci, Ariella. Une votre question.
Bonjour, Antoine Gilles de Paprika. Moi, je suis consultant en modèle économique durable dans l'immobilier et adaptation au changement climatique. Donc, je travaille sur des projets d'intensification, notamment d'usage dans le bâti. Et clairement, il y a quelque chose qui pourrait amener de l'eau au moulin en plus à ce que vous avez dit. C'est que clairement, en termes d'exploitation, il y a un vrai avantage économique à l'intensité d'usage. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2, 3, 4 preneurs pour un même lieu. Et ça permet vraiment d'améliorer le modèle économique du sujet. Donc, c'est juste remarque préliminaire. Et l'autre sujet, c'est un sujet qui est très important, qui nous concerne tous, et je pense qu'on va être confronté très, très rapidement dans l'été, c'est le sujet de l'eau. Donc, vous n'avez pas parlé pour la partie sobriété. Et j'aimerais que vous puissiez en dire quelques mots.
D'autant plus que ces jours-ci, beaucoup de métropoles en France étaient en restriction d'eau. Il y a eu de la communication qui a été faite, mais peut-être pas assez, parce que c'est un... Ouais. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'en parle pas assez, et ça, ça va être effectivement les ressources clés.
En fait, le problème de la ressource en eau, c'est exactement le même, notamment en termes d'adaptation. Puisque la maîtrise de la ressource en eau, il y a des choses aussi, tout comme ce que vous avez évoqué sur les règles ERP, il y a aussi les mêmes choses qui sont un peu invraisemblables sur la maîtrise de la ressource en eau, où par exemple, à la parcelle, on est encouragé à capter l'eau qui se capte à la parcelle pour la renvoyer au tout à l'égout. Alors que ça, c'est une très mauvaise idée en termes d'adaptation au changement climatique, puisqu'on assèche le sol et qu'on surcharge les réseaux, et qu'ensuite ça provoque des inondations en aval. Ce qu'il faudrait bien plus, c'est réussir à laisser l'eau s'infiltrer. Et donc le travail de la ressource en eau, il est... Enfin bon, je dis ça, je ne suis pas non plus expert en eau, donc je vois que... Mais il y a des choses qui sont à travailler là sur comment on gère l'eau au niveau de la parcelle, et puis dans des stratégies d'adaptation au changement climatique, l'eau, tout comme les solutions fondées sur la nature, sont des solutions de rafraîchissement, et puis inversement, des bâtiments qui restent frais, un territoire qui reste frais, c'est un territoire qui est moins sujet à la sécheresse. Donc bon, je ne vais pas développer parce que je ne suis pas si expert, mais on fait signe qu'il faut arrêter. Juste, vous voulez répondre, quelqu'un d'autre voulait poser une question.
Il y avait la question de comment capte l'eau, comment la stocke et comment la consomme aussi. C'est des sujets, enfin les toilettes sèches, des choses comme ça qui reviennent toujours. On en rit un peu quand on est sur des programmes. Mais clairement, avoir une alternative toilette sèche dans un bâtiment, ça peut être très utile en cas de coupure d'eau générale.
Exactement.
Moi, je dirais une dernière chose. Est-ce que tu as un mot encore à dire? Parce que je vois, on nous fait signe que c'est fini. Moi, j'aurais voulu donner un mot de la fin, quand même, sur tout ça. On est vraiment dans ce changement crucial où on parle aujourd'hui de comment relier l'homme à la nature sous toutes ses formes. On parle de villes sensibles, on parle de tout ça. Et donc, je voulais juste ouvrir un peu, justement, une porte dans ces changements de comportement, dans ces changements de mode de vie. On vient de parler de l'eau. Il y a un élément aussi qui est indispensable, c'est l'air. Donc, le travail de la ventilation va être à faire, on le voit. Justement, en Afrique, on a de très bons exemples, par le biais notamment du biomimétisme et des termitières, pour arriver à insuffler par le biais de cheminées hautes de l'air frais. Philippe Madec en a parlé maintes et maintes fois, il a même fait encore ces jours-ci sur LinkedIn des posts sur ces sujets-là. L'ombre, la lumière, le rythme des saisons, le végétal, l'eau et la préservation de la biodiversité sous toutes ses formes. Voilà, c'est le leitmotiv, on doit se réunir et se relier à la nature.